France Info.
Et ravi de vous retrouver pour les informer, votre demi-heure de décryptage de l'actualité comme chaque matin à la radio et sur le canal 16 et comme chaque matin, chaque jour de la semaine avec Renaud Dely.
Cachez votre enthousiasme Adrien, bonjour Adrien.
Je suis ravi de vous retrouver.
De même,
Renaud,
bonjour, bonjour à tous.
En cette rentrée avec ce matin, je suis aussi ravi de retrouver Audrey Tison, bonjour Audrey.
Bonjour.
Service politique de France Info, bonjour François-Xavier Bourmeau, journaliste politique à l'Opinion et puis Nicolas Teillard, bonjour Nicolas, vous êtes de la rédaction internationale de Radio France. Il y a une raison à ça, Renaud, parce que nous allons parler de l'Ukraine. Il y a eu hier cette réunion à Paris de la coalition des volontaires qui s'engagent à déployer des troupes en cas de cessez-le-feu, avec quand même toujours l'attente vis-à-vis des États-Unis.
Voilà, l'Europe notamment, et pas seulement, mais en tout cas ces 26 pays donc s'engagent, comme vous le disiez, à mettre en place des forces dites de réassurance d'ailleurs. Alors on va voir exactement quelle forme ça pourrait prendre, évidemment après un cessez-le-feu avec la Russie. Selon Emmanuel Macron, il s'agira d'ailleurs de prévenir davantage toute nouvelle agression majeure et puis d'impliquer donc ces 26 États dans une sécurité durable de l'Ukraine. Les membres de la coalition des volontaires, ce sommet avait lieu à Paris, se sont également entretenus par téléphone hier avec le président américain Donald Trump. Et Emmanuel Macron a annoncé une décision très rapide dans les prochains jours quant à la finalisation du soutien américain à ces garanties de sécurité. C'est d'ailleurs ce qu'a répété ce matin sur l'antenne de France Info l'ambassadeur de France en Ukraine, Gaël Vessière.
Nous, on a fait notre copie. Il y a un papier, des documents militaires qui sont prêts. Il y a déjà eu des échanges avec les États-Unis qui ont été associés à toutes les phases précédentes au niveau technique. C'est validé au niveau politique du côté des Européens au sens large. Et donc maintenant, les Américains vont nous dire exactement ce qu'ils vont faire. On a techniquement, militairement, on a déjà une bonne idée parce que les échanges avec eux. Mais naturellement, il faut une décision politique.
Alors, on va revenir, Nicolas Teillard, sur ce que disent ou ce que ne disent pas encore les États-Unis. Avant cela, cet accord. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce que on avait Gaël Vessière qui nous disait c'est une avancée, Valérie Ayer tout à l'heure aussi qui nous disait c'est formidable. Est-ce que c'est formidable vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui bougent?
Ben, il y a une réalité, c'est l'engagement formel de ces 26 pays, c'est-à-dire presque la totalité de cette coalition des volontaires. On parle d'une trentaine de pays, pour la plupart européens, mais aussi de l'Australie, du Japon, du Canada, qui apportent un soutien financier notamment, à intervenir en cas de cessez-le-feu. L'idée, c'est de dire, dès qu'un cessez-le-feu, que ça soit un traité de paix, une armistice, peu importe, la forme que ça prendrait, il y a une force qui peut se déployer en Ukraine, au sol, dans les airs, en mer, pour offrir à l'Ukraine des garanties qui éviteraient une nouvelle invasion, parce que c'est la crainte des Ukrainiens, un manque de confiance totale envers le Kremlin.
Il faut dire que par le passé, ils ont été échaudés.
Il y a des raisons à cela. Le problème, c'est qu'ici, on prépare la presse sans régler le présent. Très clairement.
Voilà.
On est aujourd'hui toujours dans une impasse en ce qui concerne les discussions et le rapport à Vladimir Poutine. On n'a pas de réponse sur la décision des États-Unis. Il y a une forme d'optimisme dans les propos de Gaël Vessière comme dans ceux d'Emmanuel Macron qui dit qu'il n'y a aucun doute sur l'attitude des États-Unis. C'est quand même pas ce que les derniers mois ont montré. Même si la tonalité de Donald Trump vis-à-vis de Kiev et de Volodymyr Zelensky n'est pas la même qu'au mois de février, évidemment, on s'en souvient. Et puis, j'allais dire, il y a la difficulté de traduire concrètement ce qui s'est passé hier, parce qu'un engagement formel à intervenir quand il se passera quelque chose, ça laisse quand même beaucoup d'échappatoires.
Alors, il y a aussi, si on va peut-être un peu plus dans le détail, dans le concret, ce que dit très concrètement cet accord. Et d'ailleurs, ce qu'en dit Emmanuel Macron est assez frappant. Il dit, on ne peut pas dire ce qu'il y a dedans. Pour quelle raison? Comment on explique ça? Pourquoi cette volonté de cacher?
Ça ressemble presque à la dissuasion nucléaire.
Moins
on en dit, mieux c'est. Dans ces cas-là, la difficulté, je trouve, à la fois de cette coalition et de cet engagement, c'est que c'est aussi indispensable à Kiev, qui ne peut pas vivre sans avoir des garanties sur l'avenir et sur sa sécurité, que c'est un frein à ce que peut faire la Russie vis-à-vis de discussions. En tout cas, ça offre un argument, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin, mais sur un plateau à Vladimir Poutine, de dire toute intervention occidentale, européenne en Ukraine, c'est une ligne rouge. Donc, comment signer un accord de paix, puisqu'un accord de paix signifierait que des Européens arriveraient sur le sol ukrainien. Donc finalement, le serpent se mord un peu la queue de ce point de vue-là, et en même temps, on ne peut pas ne pas faire preuve de fermeté vis-à-vis du président russe.
Un mot, puisque Nicolas Teillard en parlait, François-Xavier Bourmeau, on pourra considérer, pour Emmanuel Macron, c'est une réussite à partir de quand? Est-ce que d'ailleurs ça pourra être mis à son crédit ?
Alors déjà, il faut se souvenir du tollé qu'avait provoqué Emmanuel Macron lorsqu'il avait proposé d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc là, il y a effectivement une avancée puisque les 26 pays européens disent aujourd'hui, on est prêt, pas forcément à envoyer des troupes au sol, mais en tout cas
à participer,
pour ça, à participer à garantir la sécurité de l'Ukraine après. En revanche, là où c'est pas un succès, c'est qu'Emmanuel Macron, ça fait depuis la réélection de Donald Trump qu'il essaye de le convaincre qu'il ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine. Et on voit bien que du côté de Donald Trump, il espère toujours obtenir quelque chose de Poutine. Il est, Donald Trump, à la fois satisfait de voir les Européens s'organiser et prendre en main la défense de l'Ukraine, mais en même temps réticent, lui, à participer à cet effort. Là, on parle d'aide sur le renseignement, notamment, d'aide aérienne. Récemment, Poutine a dit qu'il était prêt à augmenter ses troupes en Pologne. Mais on voit bien que...
– Trump, pas Poutine.
– Oui, Trump. –
Vous avez dit Poutine.
– Ah pardon, non, Donald Trump, excusez-moi. Mais on voit bien que sur la question de convaincre Donald Trump qu'il ne peut pas faire confiance à Poutine, ça coince toujours.
– Oui, et ça, effectivement, c'est le rôle que s'était attribué Emmanuel Macron. Simplement, Nicolas Théière, sur Donald Trump, à quel moment
votre embarras à poser une question traduit bien la situation.
Non mais celui des Européens.
J'allais vous dire,
on ne sait pas sur quel pied danser avec Donald Trump.
Pour à quel la moment simple, pourra-t-on y voir clair
pour quoi. La simple et bonne raison, c'est aussi qu'il ne donne pas beaucoup d'éléments permettant de percer le mystère de sa stratégie sur ce dossier. Et j'allais dire, il y a presque une forme de surenchère dans la négociation. Qu'est-ce qu'il a dit aux Européens depuis des mois ? Il faut que vous investissiez dans vos moyens de défense et l'Ukraine, c'est un dossier européen, c'est à vous de le gérer. Les Européens ont tous promis d'augmenter leurs dépenses de défense. Ils ont mis en place, ils ont travaillé cette coalition des volontaires avec un plan très précis. On a fait le job, c'est en gros ce qu'on a entendu dans les propos de Gaël Vessière tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit Donald Trump maintenant que la copie est rendue et qu'elle a l'air propre ? Ah, il faudrait que vous fassiez pression sur les Chinois aussi, parce que finalement, ils soutiennent la Russie. Donc en fait, il en demande encore plus au moment où il reçoit ce qu'il avait demandé il y a quelques semaines.
Il faut faire pression sur tout le monde, sauf sur la Russie.
Sur la Russie, à qui il a fixé des ultimatums successifs, qu'il ne cesse de prolonger. Et quand il dit « ça va se passer autrement parce que je ne suis pas content envers Vladimir Poutine », c'est grosso modo ce qu'il a dit tout au long du mois d'août.
Voilà, il l'a dit plusieurs fois.
Il promet des choses, personne n'a la moindre idée de ce qu'il peut faire contre Vladimir Poutine.
Renaud Dely, je ne vous pose pas de questions. Du coup.
Non, mais juste un mot, comme le disait à l'instant Nicolas, Donald Trump est pas très clair, on va dire, vis-à-vis de Vladimir Poutine, où il l'est trop et on ne veut pas le voir, mais en tout cas, évidemment, cette indulgence, ces délais accordés, le fait qu'il fasse davantage pression sur ses prétendus alliés, c'est-à-dire les Européens et l'Ukraine, que sur l'adversaire de fait qu'est Vladimir Poutine. Tout ça interroge très clairement. On ne voit pas bien où veut aller Donald Trump et on voit très bien que les Européens se retrouvent toujours dans la même situation. Justement, c'est de faire tout ce qu'il faut pour mettre Donald Trump en condition de les rallier, de les aider, de les soutenir, mais pour l'instant, il ne franchit pas le pas. En revanche, il y en a un dont on voit la stratégie est limpide et n'a pas bougé depuis le premier jour de la guerre, c'est Vladimir Poutine. Ça, c'est très clair. Ce matin, il dit qu'il est prêt à un sommet avec les Ukrainiens, mais à Moscou. Et très clairement, il veut pas d'autres partis, il veut pas d'intermédiaires, surtout pas d'Européens, encore moins de troupes qui seraient toutes des cibles légitimes, Nicolas Théière le disait. Rien ne change dans l'objectif de Poutine depuis le premier jour de la guerre. C'est démanteler l'Ukraine, renverser le régime, dénazifier, comme il le disait à l'époque. Et donc ça, et il ne veut absolument pas, évidemment, d'intermédiaires et de ces le feu, etc. Ça, lui, n'a pas bougé, c'est limpide.
Audrey Tison. Un petit mot peut-être, oui, sur le rôle d'Emmanuel Macron, qui est un peu dans son rôle favori. Macron l'Européen, Macron le négociateur, Macron qui réunit toute l'Europe à l'Élysée hier. Est-ce que pour lui, c'est pas un peu une parenthèse par rapport à la situation nationale très compliquée, hein. On sait qu'il y a des appels à la démission, des appels à la dissolution qui se multiplient. Et donc là, il retrouve son rôle favori, hein, celui de chef de la diplomatie française, presque chef de l'Europe. Et on sait qu'il aura une autre séquence internationale importante à l'ONU bientôt.
Et en même temps,
avec la question de la Palestine, effectivement, Nicolas Théière.
Et en même temps, c'est un rôle indispensable parce que les difficultés intérieures et tous les tourments de la politique française n'ont pas d'effet sur la réalité du monde qui nous entoure, en l'occurrence la situation en Ukraine, les conséquences qu'elle peut avoir comme ce qui se passe au Proche-Orient, ce sont des dossiers qui ne peuvent pas être poussés et qui ne peuvent pas dépendre de ce qui se passe en politique intérieure. Donc il y a une obligation aussi, un impératif majeur pour le chef de l'État de se saisir de ces dossiers et de travailler avec les autres dirigeants européens.
Un tout dernier mot, puisque vous parliez de Donald Trump, et à propos des Européens, est-ce que on a des capacités de le convaincre ou est-ce que Donald Trump il fait tout en fonction de ce qu'il a envie de faire. de l'intérêt qui est le sien et de son, du moment qui est le sien.
En tout cas, on va dire que les derniers mois ont montré qu'il avait son agenda, qu'il avait ses priorités, qu'il avait sa manière de faire et de négocier. On l'a beaucoup vu, notamment sur le dossier du Proche-Orient. Je crois que les Européens, ils sont face à cette réalité. Aujourd'hui, c'est Donald Trump avec ses choix et avec sa stratégie et... c'est assez difficile. Malgré tout, il y a du travail. Hein. Il faut quand même pas négliger la différence de ton et de relation entre ce qu'on a vu à la Maison Blanche fin février avec J.D. Vance qui était assis juste à côté de Donald Trump face à Volodymyr Zelensky et ce qu'on peut entendre ces dernières semaines malgré tout.
Renaud Dely.
Mais si je comprends bien votre question, Adrien, corrigez-moi si je me trompe. vous demandez en fait si les Européens ont moyen de faire pression sur Donald Trump pour le faire bouger.
Oui, indépendamment des mots, que peut-on faire ?
De ce point de vue-là, il y a une vraie différence, me semble-t-il, entre la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump et puis la situation en Ukraine. C'est-à-dire qu'autant, en ce qui concerne la question de cette guerre commerciale des droits de douane, les Européens ont ou auraient moyen de le faire. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de discussions d'aller-retour avant finalement l'accord qu'on connaît, ratifié par Ursula von der Leyen, qui a fait hurler un certain nombre de pays, dont la France d'ailleurs. Mais il y a un poids commercial, le poids des consommateurs européens et autres, qui peut quand même, à certains moments, peser sur Trump et la politique commerciale des États-Unis. Pour ce qui est du dossier ukrainien et de la situation militaire là-bas, on a l'impression que non. On a l'impression que les Européens sont totalement désarmés.
La puissance Nicolas militaire Théa. Américaine est incomparable.
Effectivement. François-Xavier Bourmont.
Il y a quand même un point commun entre le dossier commercial et l'affaire ukrainienne, ce sont les interrogations sur la stratégie de Donald Trump. Il y a quelques mois, quand les droits de douane étaient en discussion, on s'interrogeait au sein de l'exécutif pour savoir si la stratégie de Donald Trump était totalement géniale ou complètement stupide, sans avoir de réponse. Et c'est un peu la même interrogation qu'il y a sur l'Ukraine, c'est-à-dire à quoi joue-t-il, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses ambitions. Et cette incertitude-là n'a jamais été levée, que ce soit sur le dossier commercial, et ne l'est toujours pas sur le dossier ukrainien. L'incertitude qui pèse sur Donald Trump, en fait, empêche de voir de la visibilité.
Mais on sent qu'il n'est pas prêt à rompre la relation qu'il a renouée avec Vladimir Poutine, à la différence de son prédécesseur Joe Biden.
D'un mot là-dessus, pardon, elle lui sert à quoi, cette relation, exactement, à Donald Trump ? Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'avancée économique, qu'il n'y a pas eu de dégel véritablement, mais qu'il y a une bonne relation entre les deux présidents. Bon.
Oui, il y a peut-être aussi une forme de parallèle dans la manière de voir le monde, de gouverner. Et puis, il y a peut-être aussi une volonté chez Donald Trump de se démarquer, d'apparaître comme quelqu'un qui parle aux personnages dont il estime qu'ils sont du même niveau que lui, au moins sur l'échiquier géopolitique. Effectivement, ça donne pas forcément de résultats. En tout cas, on a du mal à les lire aujourd'hui. Mais semble-t-il, pour lui, c'est quelque chose d'important qu'il est pas prêt encore à rompre.
Merci à vous, Nicolas Théard, rédaction internationale de Radio France, d'avoir été avec nous ce matin. Retour à la politique française. Dans une minute, on va parler de la droite qui commence à se s'entre-déchirer alors que François Bayrou, lui, est prêt à tomber dans quelques jours. 9h19, d'abord votre fil info, Manon Lombard-Brunel.
La Cour des comptes alerte sur le coût du gaspillage des produits de santé. Ceux achetés en pharmacie et jetés avant même d'avoir été utilisés. Ce gaspillage coûte entre 561 millions et 1,7 milliard d'euros chaque année. Cela correspond aux médicaments, mais aussi aux dispositifs médicaux comme les pansements et les béquilles. Une Française fait partie des victimes après le déraillement d'un funiculaire avant-hier à Lisbonne. C'est ce qu'annonce ce matin sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Selon les informations de France Info, il ne s'agit pas de cette autre Française qui, elle, avait été légèrement blessée dans cet accident. Elle a pu sortir de l'hôpital après y avoir passé quelques heures. Dans la Drôme, 6 personnes ont été mises en examen dans une nouvelle affaire d'enlèvement en lien avec la crypto-monnaie. Un homme de nationalité suisse a été enlevé avant d'être libéré par le GIGN. C'était dimanche à Valence. Les ravisseurs sont soupçonnés de l'avoir kidnappé en échange d'une demande de rançon. Et puis c'est le plus gros transfert de l'histoire du football français chez les femmes. 1 400 000 euros. Voilà le montant du transfert de Grace Gueyoro, la milieu de terrain de l'équipe de France qui quitte le Paris Saint-Germain, direction les London City, la Lyonnais.
France Info. Les informés, Adrien Beck, Renaud Dely.
est toujours avec François-Xavier Bourmont, journaliste politique à l'Opinion, et Audrey Tison, journaliste politique à France Info. Renaud Dely, notre deuxième sujet, nous ramène vers la politique française et on se demande où est-elle la boussole de la droite.
La droite, effectivement, qui semble sans boussole quant au vote de confiance sur François Bayrou et surtout sur l'après Bayrou déjà. Parce que pour ce qui s'agit en ce qui concerne le vote de lundi, la droite s'est finalement accordée sur l'idée de voter la confiance. C'est la position de Bruno Retailleau, même si l'on sait déjà que de nombreux députés du groupe LR ne devraient pas le faire. En revanche, sur l'après Bayrou, la droite se déchire allègrement, puisque Nicolas Sarkozy, par exemple, réclame une dissolution de l'Assemblée nationale, Valérie Pécresse, Jean-François Copé ou encore David Lisnard, eux, le départ d'Emmanuel Macron. Ce ne sont pas les positions défendues par Bruno Retailleau, le chef du parti. Et puis, voilà que le meilleur ennemi, entre guillemets, de Bruno Retailleau au sein de LR, Laurent Wauquiez, lui-même fait entendre une autre partition au lendemain de la chute probable de François Bayrou. Est-ce que la droite devrait censurer un gouvernement RN ou un gouvernement socialiste? Eh bien non, selon Laurent Wauquiez, c'est ce qu'il a dit hier chez nos confrères de BFM TV.
On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays.
Et il s'est fait sévèrement recadrer aussitôt par Bruno Retailleau. Intolérable, inacceptable pour le président de LR, un gouvernement socialiste. La droite censurerait un gouvernement socialiste pour Bruno Retailleau parce que celui-ci, selon lui, mènerait une politique contraire aux intérêts de la France et que la droite s'engage à empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Et au passage, il ne dit rien, en revanche, de la non-censure d'un éventuel gouvernement RN après une dissolution de l'Assemblée nationale. En clair, est-ce que la droite ne semble pas aussi adouber, comme l'a fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro il y a deux jours, l'arrivée éventuelle du RN au pouvoir après une dissolution, par exemple?
Alors, cette question, effectivement, du RN et du rapport entre la droite et RN, on va y revenir. D'abord, Audrey Tison, on a peut-être un peu du mal à comprendre ce matin pourquoi Laurent Wauquiez, contre toute attente, j'allais dire, est allé s'exprimer en disant que il ne censurerait pas forcément un gouvernement PS.
Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant de la part de Laurent Wauquiez, lui qui s'affirme être toujours très droit dans ses bottes.
Et très droite d'ailleurs.
Et très à droite. Il faut rappeler que Laurent Wauquiez est actuellement chef du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Qu'il a une défaite majeure pour la présidence du parti face à Bruno Retailleau, avec un score très net en faveur de Bruno Retailleau. Donc Laurent Wauquiez, formellement, il a besoin d'exister sur la scène politique et de prendre des positions assez fortes. Et là, visiblement, il n'a même pas pris la peine d'informer Bruno Retailleau de son annonce, le fait qu'il comptait ne pas censurer un gouvernement PS ou un gouvernement RN. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup consulter non plus ses députés, puisque certains sont offusqués hier quand on leur a envoyé quelques messages. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on nous précise quand même qu'il s'agit d'une non-censure a priori. C'est-à-dire que si un Premier ministre PS social-démocrate était nommé, il ne censurerait pas d'office. Il lui laisserait un petit peu travailler, lui laisserait un petit peu sa chance. Donc dans la journée, on a senti qu'il y a eu quand même un petit peu d'eau dans le vin pour dire non, mais on n'est pas en train de donner un blanc-seing, un chèque en blanc à la gauche, il ne s'agit pas de ça.
Qu'est-ce qui se joue ces jours-ci, François-Xavier Bourmont, du côté de la droite? Parce que la droite est au gouvernement, elle ne sait pas si elle peut y rester ou pas. La gauche, que faire vis-à-vis de la gauche? Que faire aussi vis-à-vis du RN? Bon, on a l'impression que ça bouillonne.
Ce qui se joue, c'est la survie de la droite. Il faut reprendre depuis le début, en 2017, ce qui se passe. La droite refuse de soutenir le programme d'Emmanuel Macron, qui met en application à peu près tout ce qu'elle a défendu depuis qu'elle brigue les fonctions gouvernementales, c'est-à-dire suppression de l'ISF, baisse des impôts, allègement du code du travail, réforme de la SNCF. Enfin, voilà. Depuis 2017, la droite se met en retrait de toutes ces réformes qu'elle défend. 7 ans plus tard, et autant de revers électoraux, si on peut dire, parce que le LR a quand même enregistré de très sérieux recul dans différentes élections qui sont passées par là, décide de retourner au gouvernement pour se refaire une culture gouvernementale et montrer que aux manettes elle sait faire.
Jusque là je vous suis.
Voilà, on en est à ce moment-là.
Accrochez-vous, Adrien. Accrochez-vous.
C'est là que ça va se compliquer. On est dans une stratégie de reconstruction à long terme qui se trouve percutée par des ambitions tactiques à court terme. Les ambitions tactiques à court terme sont celles de Laurent Wauquiez, qui essaye de se refaire la cerise après avoir perdu le congrès de LR face à Bruno Retailleau, et qui voit Bruno Retailleau se mettre en très bonne position pour être le candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2027. Lui n'a renoncé à rien, et donc sur ce sujet-là de faut-il soutenir ou pas, censurer ou pas un gouvernement, même s'il est socialiste, se démarque pour renvoyer LR dans l'opposition au cas où et se refaire la cerise pour 2027.
Oui, chacun se refait la cerise en fait. Renaud Dely, au milieu de tout ça, il y a aussi Nicolas Sarkozy.
Voilà, un pied dedans, un pied dehors, faut-il ou pas participer, qui censure, etc. On le voit bien avec chacun d'ailleurs des ambitions personnelles, des arrière-pensées électorales liées à l'élection présidentielle. Là-dessus, la droite, les droites, tous les cadors de LR se divisent allègrement. Il y a un mouvement global qui semble s'enclencher, et notamment à l'initiative de Nicolas Sarkozy, c'est quand même celui d'une banalisation, d'un adoubement par avance d'une éventuelle arrivée du Rassemblement National au pouvoir, que ce soit à l'issue d'une dissolution ou
Nicolas Sarkozy dit dans le Figaro, ils sont dans l'arc républicain.
Avant-hier, il a expliqué que le RN est un parti tout à fait comme un autre, membre de l'arc républicain, dit-il, que Marine Le Pen doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, qu'il faut une dissolution de l'Assemblée nationale, et que d'ailleurs, si ces élections, le RN peut très bien les remporter, et que ça pourrait même être source de clarification, dit-il. Et dans ce cadre-là, on voit hier que ce qui fait polémique, c'est la phrase de Wauquiez, c'est de Laurent Wauquiez lorsqu'il explique qu'il ne censurerait pas les socialistes, mais quand il dit qu'il ne censurerait pas le Rassemblement National, là, il n'y a personne à droite qui ne se soit offusqué ou qui ait critiqué cet aspect-là. Donc on voit bien qu'il y a globalement peut-être un mouvement qui s'enclenche, la tectonique des plaques politiques bouge, et si on regarde, d'ailleurs, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'à l'échelle européenne, ça se produit dans d'autres pays. C'est-à-dire que la droite et l'extrême droite convergent idéologiquement avant parfois de passer des accords.
L'Italie est un très bon exemple.
C'est la mélanisation des esprits.
Toute la question, je discutais il n'y a pas longtemps avec un très proche de Bruno Retailleau qui m'expliquait que finalement, il est en train de faire des conjectures sur l'avenir et en train de se dire finalement, est-ce qu'on ne travaillerait pas mieux avec le RN ? Bon, bien sûr, il y a le côté idéologique, mais il y a aussi le fait que le RN, on sait où ils habitent, on sait ce qu'ils proposent. Ils sont un bloc très uni à l'Assemblée. On sait qu'ils votent d'un seul homme derrière leur chef de file, Marine Le Pen. On imagine bien que Bruno Retailleau ayant lui-même des ambitions, ça n'est pas son idée de mettre le RN, de propulser le RN, mais
en tout cas, c'est une réflexion.
Il y aura en effet une tectonique des plaques dans les deux années à venir.
Merci beaucoup, Audrey Tison, service politique de France Info. Merci François-Xavier Bourmeau, vous êtes journaliste politique à l'Opinion et je vous remercie évidemment.
Que sympa en fait
cette émission sans vous.
Ouais. Merci à vous
d'avoir suivi les informés. Restez sur France Info, l'info continue.